l'hyper-féminité. Ouais, ça me fait rire, je sais pas, je m'attendais pas à ça. Peu importe s'il y a des hommes ou pas, je m'habille comme je veux et j'en ai rien à foutre. Et mon corps ne doit pas être sexualisé plus parce qu'il a moins de tissu sur lui.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen chaque après-midi. 2 heures pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses tendances et aujourd'hui, cherchant désespérément une tendance qui pourrait justifier qu'il fallo back cette mystérieuse mais appétissante Samantha Big Boobs qui le suit sur Instagram depuis lundi, Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef qui n'a visiblement rien retenu de notre émission sur les brouteurs, s'est creusé la tête et il a fini par trouver l'opportunité inespérée de fallo back Samantha pour raisons professionnelles. On va zoomer sur l'hyper-féminité. Ces femmes qui ont décidé de s'assumer en exploitant à fond. Vous n'aimez pas Axel Red peut-être ?
J'adore.
Vous avez vraiment de très mauvais goûts musicaux, Manon. C'est désespérant. Ces femmes qui ont décidé de s'assumer en exploitant à fond les codes de la féminité, maquillage prononcé, talons aiguilles, décolleté pigeonnant, comme on disait à mon époque, dans le sillage des stars de la télé-réalité comme Kim Kardashian, elles veulent prendre le contrôle de leur vie grâce à leur hyper-féminité. Bref, le sujet jackpot pour Cyril, prétexte idéal pour explorer la conscience tranquille, le profil de Madame Big Boobs. Au pire, s'il se fait chauffer par Madame Lacarrière, il pourra répondre serein « Ah, mais c'est pour le travail, chérie, on fait l'hyper-féminité, je mène l'enquête, un d'où ça sort ne sort pas de nulle part. C'est vrai, ça sort souvent de Wikipédia », lui répondra sa femme, taquine. Mais il n'entendra même pas, hypnotisé par la dernière story de Samantha. Alors, qui sont ces femmes qui jouent à fond la carte de la sensualité sans complexe et sans se soucier surtout du regard d'autrui, ou peut-être justement en voulant faire changer le regard d'autrui ? L'hyper-féminité est-elle un féminisme ? Cyril met un petit cœur sur le poste où Samantha fait du topless avec des petits émojis étoiles pour cacher les tétons. Et Zoom Zoom Zen, c'est parti !
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Bonjour Agathe Ridinger.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Vous êtes scénariste, réalisatrice. Votre premier film, Diamant Brut, a été nommé dans la catégorie meilleur premier film à la dernière cérémonie des Césars. Bravo déjà. Merci. Pour cette nomination. Diamant Brut, c'est l'histoire d'une jeune fille qui veut devenir la Kim Kardashian française. Un film qui interroge sur les codes de la beauté et de la télé-réalité aussi. Et vous vous penchez particulièrement sur cette représentation de l'hyper-féminité dont on va parler pendant une heure. Juste le temps de vous présenter mes Diamants Bruts à moi. Manon Mariani, Quentin Louis, bonjour.
Bonjour. Bonjour. Oh bah
c'est pas tous les jours.
C'est très gentil.
Bonjour.
Ça.
Oui, mais qu'est-ce qui vient derrière ?
Oui, c'est ça. Comme d'hab.
Face à vous, Agathe Ridinger, c'est à cause d'hommes comme lui, ou plutôt de goujats comme lui, que certaines femmes se sentent aujourd'hui encore jugées sur leur tenue vestimentaire et leur maquillage. Faut entendre ce qu'il est capable de dire dans ses micro-trottoirs quand il croise une femme trop maquillée à son goût.
Elle marche vite, je l'arrête, autant vous dire qu'on la voit de loin.
Quentin !
À vous détourner les choses.
Chaque après-midi, avec votre tact légendaire, vous partez à la rencontre des passants et des passantes pour les faire réagir à notre notion du jour. Alors, l'hyper-féminité dans la rue, est-ce que ça interroge, est-ce que ça divise ?
Vous mentez à la France. Eh bien,
c'est pas faux.
Ça se remarque, surtout dans la rue. Ah. On voit de plus en plus ces codes d'hyper-féminité. Alors, peut-être plus dans les rues de Paris qu'ailleurs en France, mais quand même, j'ai discuté avec des passantes qui usent et jouent de leur hyper-féminité assumée.
À vos côtés, Agathe, elle a longtemps rêvé de participer à un programme de télé-réalité. Le problème, c'est que pour Manon, c'était la Star Academy ou rien. Et donc, malgré la justesse vocale qu'elle avait pourtant manifestée sur son EP en 2007... Ce fut plutôt rien.
C'est très juste, mais... arrêtez avec ça.
Quelle reconversion.
Non, c'est fou. C'est ma chanson, donc c'est forcément juste. Réfléchissez.
Ah non, ah,
j'adore
c'est
cette
pas
théorie.
Comme ça que ça se
c'est intéressant,
ça
c'est ma chanson, donc c'est juste.
Bon, allez.
Très bien.
C'est bon.
En tout cas, votre conversion est magnifique puisque vous présentez aujourd'hui l'autre personne à suivre sur notre sujet du jour.
C'est l'une des candidates de télé-réalité française les plus connues. Elle s'est fait connaître en parlant de shampoing sur Énergie 12 et elle est devenue une véritable femme d'affaires en incarnant l'hyper-féminité totalement décomplexée.
Vers 16h30, elles ont été les pionnières de l'hyper-féminité, des stars parfois mondiales, mais saurez-vous les reconnaître sans les voir, juste en écoutant leurs plus belles citations, réponses dans le Zoom Zoom Test, comme disait Samantha Big Boobs dans son dernier MP à Cyril, c'est bon de jouer. Juste avant 17h, ce sera l'hyper-féminité vue par GC, ça aussi on a hâte. Mais d'abord, Agathe Ridinger, cette hyper-féminité, est-ce que c'est une revendication féministe ou là on extrapole un peu quand même en disant ça ?
C'est un peu les deux. Oui, c'est pour moi une revendication féministe et je pense pour plein de jeunes femmes, une manière de s'affirmer, une manière de d'attirer les regards et de dire regardez, je suis là et je suis une guerrière et je vous emmerde d'une certaine façon. C'est une manière de. C'est en effet aussi un élan très féministe parce que c'est une manière de disposer de son corps comme on veut et de aussi friser la morale et friser la. Le bon goût et friser les choses qu'on attend d'une femme et qui est de rester un peu à sa place, c'est encore quand même quelque chose qu'on exige encore beaucoup de la femme aujourd'hui. Et à côté, c'est quand même aussi Bah, la résultante quand même toujours, enfin, moi je peux pas m'empêcher de voir aussi une forme de réponse à des injonctions patriarcales malgré tout, puisque on ne sait pas qui fabrique la mode et c'est un peu la poule ou l'œuf quoi finalement, donc on ne sait pas qui va fabriquer la définition de ce que c'est qu'une vraie femme, de ce que c'est, enfin vrai, c'est vraiment le terme vrai, il est important dans l'hyperféminité, dans cette notion là, et donc c'est un peu ouais, la poule ou l'œuf, ou savoir, donc je pense que c'est un mélange des deux.
On va y revenir dans cette heure avec vous. Un jour où on fera une émission, en tout cas sur l'hyper-masculinité, on n'aura pas besoin de caler un invité, on l'aura lui. Il est l'archétype du patriarche tel que la Bible nous le présentait. Il a la barbe, il a la force, il a le pouvoir et 27 nudes de Madame Big Boobs dans ses messages Instagram. Bref, comme disait William Scheller, c'est un homme heureux. Mais un homme studieux aussi, qui n'oublie pas pourquoi il reluque des femmes hyper-féminines sur Insta, pour mieux nous dire l'hyper-féminité, Cyril, d'où ça sort?
Eh bien, ça sort d'un mot bimbo. Et bimbo, ça vient de l'italien. Ça vient de bambino. Et qu'est-ce que ça veut dire bambino? Eh bien, ça veut dire petit garçon. Donc rien à voir avec la bimbo qu'on connaît aujourd'hui et dont on va parler. Et donc à des lustres de cette hyperféminité qu'on explore. En italien, bimbo, ça veut dire gamin. Et on dit bimba pour une jeune fille. Et puis, ça a basculé à cause de qui? Eh bien, à cause des Américains. Bimbo a traversé l'Atlantique grâce à l'immigration italienne. Et quand il arrive aux États-Unis, ce mot, le terme désigne plutôt à ce moment-là un homme un peu simplet. Toujours, rien à voir donc, avec les femmes. Et puis, c'est à partir des années 20 que son sens bascule. Terminer les enfants, terminer les mecs un peu concon, bimbo va devenir la bimbo. C'est-à-dire une femme séduisante, mais toujours un peu concon.
Et puis les années 50 vont marquer un tournant.
Marilyn Monroe, blonde, poitrine généreuse, le plus souvent utilisée dans des rôles de femmes un peu naïves. Marilyn est LA femme fatale par excellence, et donc LA bimbo. C'est avec elle que le terme s'ancre définitivement dans cette image. Pamela Anderson incarnera aussi cette femme à la féminité exacerbée, sexualisée et objet de fantasme. Britney Spears en sera une aussi, avant que la bimbo ne se réinvente aujourd'hui. Terminer l'image de la femme un peu concon, qui se fait manipuler, la bimbo, désormais, elle est aux commandes de sa vie, et c'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Agathe, cette bimbo qui reprend les commandes de sa vie, qui assume, c'est peut-être ça qui définit l'hyperféminité, mais j'aimerais revenir sur ce que disait Cyril. Est-ce que des personnalités comme Marilyn Monroe, même Pamela Anderson avant elle, vous dites, Cyril, la bimbo a changé et l'hyperféminité, c'est plus ça aujourd'hui. Est-ce que ces femmes-là n'étaient pas déjà en contrôle de leur vie et ne jouaient pas juste avec les codes de la féminité pour mener leur barque comme elles voulaient, en fait?
Ah ben, je pense qu'elles avaient tout à fait conscience de l'image et de ce qu'on attendait d'elles, et qu'elles avaient un peu l'obligation et l'injonction de se taire et de revendiquer autre chose. Et de rester dans les clous du personnage qu'elle devait jouer, mais elles en ont toutes les deux beaucoup souffert, et je pense que parmi les femmes que vous citiez, je pense qu'elles ont toutes souffert de l'étiquette et de l'image dans laquelle on les a enfermées, quoi.
Et donc la bascule aujourd'hui, c'est que donc ces femmes hyper féminines le revendiquent et sont heureuses avec ce statut-là. En tout cas, elles sont bien.
Bah, il y a vraiment l'idée de la libération, de la revendication, de l'affirmation de soi et de d'exploser les codes et d'emmerder un peu la personne qui va exposer un jugement. Donc c'est un élan qui est vachement positif finalement. Enfin, s'affirmer, c'est toujours très positif.
Manon,
vous adorez la télé-réalité, c'est aussi le sujet de votre film. C'est ça qui a changé l'image des femmes hyper féminines.
Alors je pense que la télé-réalité a d'abord beaucoup et continue de desservir malheureusement les candidates mais aussi les gens qui regardent la télé-réalité et qui idolâtrent les candidates de télé-réalité, mais par ailleurs je pense qu'elles ont participé à modifier forcément le regard qu'on pouvait avoir elles ont réussi en tout cas à imposer une nouvelle féminité dans la culture populaire, parce que comme elles sont destinées à devenir des icônes et que la télé-réalité c'est une fabrique à icônes et que c'est un peu la promesse qu'on leur fait et que c'est aussi réellement ce qu'elles peuvent devenir. Donc je pense à Nabila, à d'autres candidates de télé-réalité, à Loana, d'autres candidats de télé-réalité plus actuelles et qui sont très célèbres et suivies par presque 10 millions de followers sur les réseaux. Donc elles ont quand même participé à montrer une autre facette de la femme et une autre facette d'une autre revendication qui est tout à fait digne et louable et qui ne devrait pas être mal jugée malheureusement. Mais en tout cas, elles ont ouvert une vanne sur le modèle de Kim Kardashian, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est de voir comment Kim Kardashian était un modèle au sein de la télé-réalité et que en fait on est un peu dans le flux de
oui, dans son film.
Exactement.
Zoom zoom zen. Mathieu Noël sur France Inter.
La critique parle de la naissance d'une cinéaste pour Diamant Brut, son premier long métrage. Agathe Ridinger est avec nous cet après-midi pour zoomer sur la notion d'hyperféminité qui traverse justement votre film. Agathe, dans Diamant Brut, Liane est une jeune fille sélectionnée pour participer à une émission de télé-réalité. C'est un univers qui vous passionne, on en a parlé. Est-ce que l'hyperféminine alpha, c'est pas Kim Kardashian?
À l'époque d'aujourd'hui, oui, bien sûr, c'est le modèle absolu que toute jeune femme ou candidate cherche à imiter. Donc ça reste la papesse de la mode, de ce qu'il faut dire, de ce qu'il faut faire.
C'est elle qui fixe les codes de l'hyperféminité finalement.
Oui, parce qu'elle est vraiment, ça a été un peu la pionnière de c'est aussi elle, je trouve, qui a réouvert, enfin qui a réinstauré, on va dire, des formes qui étaient plus du tout dans la norme, dans les canons de beauté. Et qui donc du coup a dû faire énormément de bien à beaucoup de jeunes femmes de se dire mes hanches, ma poitrine, le corps tel que j'ai finalement.
Elle est quand même très refaite quand même.
Enfin, elle est très refaite, mais elle
correspond. Je dis pas ça négativement.
Oui, bien sûr, mais elle correspond. Enfin, son corps correspond à une figure beaucoup plus Botticelli, beaucoup plus Renaissance, beaucoup plus romantique, et donc ça fait du bien de sortir aussi d'une représentation famélique.
Et pour moi, ça c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, c'est elle qui l'a choisi, c'est elle qui a défini les formes qui étaient. Les critères du beauté du moment, c'est Kim Kardashian qui l'a décidé elle-même, parce que la critique qu'on peut avoir sur l'hyperféminité, si on regarde ça de loin, c'est se dire, mais finalement, elles reproduisent les codes que les hommes ou le patriarcat ont décidé pour elles. Une femme doit être comme ça, et donc elles sont hyperféminines parce que ça plaît aux hommes. Mais en fait, non, c'est plus subtil que ça.
Je pense que c'est vraiment les deux. Je pense que c'est vraiment, on est dans une société patriarcale depuis la nuit des temps, donc le rôle des femmes, c'est de plaire, enfin c'est vraiment d'être dans la séduction, de séduire des objets de désir. Donc je pense que même Kim Kardashian, malgré toute son intelligence de businesswoman, je pense qu'elle est aussi le résultat de siècles et de siècles d'injonctions. À être représentée de cette manière, quoi.
Dans votre film, votre héroïne, dit « Si je suis belle, je suis regardée. Si je suis regardée, je suis désirée. Si je suis désirée, c'est qu'on m'aime. » Exacerber sa féminité, c'est aussi un moyen de combler un manque affectif.
Ah oui. Enfin, ça, en tout cas, c'est la lecture que moi, je fais de cette... la raison majeure pour laquelle je suis toujours très émue quand je vois, je trouve que plus c'est ostentatoire et plus c'est refait et plus ça clinque, etc., plus ça cherche à cacher une immense fragilité et plus ça représente une armure et donc une fragilité immense à cacher.
Vous dites que votre film, c'est un film sur le besoin d'amour.
Tout à fait, oui. À partir du moment où Liane, en tout cas, c'est comme ça qu'elle pense, et elle se dit qu'il faut qu'elle attire les regards sur elle, en attirant les regards sur elle, elle s'offre de l'espace, elle s'offre de la visibilité, et encore plus, c'est d'autant plus important aujourd'hui que la visibilité est essentielle, malheureusement, pour avoir une certaine valeur dans la société, une crédibilité professionnelle et sociale et humaine, etc. Donc le fait d'être vue lui prouve qu'elle s'est inscrite dans la rétine de l'autre, et si en plus elle est désirée, et elle confond désir et amour, Liane, c'est un personnage qui est pas armé justement pour faire cette différence, et aussi du fait des réseaux sociaux et de notre société d'aujourd'hui. Mais ce qui est certain, c'est que d'être visible, de provoquer le regard de l'autre, et c'est rentrer dans son champ de vision, c'est rentrer dans son cerveau, c'est provoquer quelque chose en lui. Et elle, qui souffre d'invisibilité, qui souffre d'un manque d'amour colossal et d'un abandon familial, social, scolaire, etc., c'est une manière de compenser, de réparer justement cet abandon là.
Mais Manon. Est-ce que l'hyperféminité, ça passe forcément par des décolletés, par du maquillage, par de la chirurgie esthétique? Est-ce que ça peut aussi être une attitude, tout simplement?
Tout dépend de ce qu'on met derrière la définition du mot féminité. Quand on dit hyperféminité, pour moi, c'est vraiment la Madone, quoi. C'est l'image de la Madone, et la Madone moderne, c'est Kim Kardashian, pour en revenir un peu à l'icône, la femme alpha dont on parlait tout à l'heure. Mais bien sûr qu'il y a toutes sortes de féminités, mais l'hyperféminité, pour moi, c'est vraiment l'exacerbation. Je ne sais pas si mon mot est très français, mais c'est exacerber, en tout cas, les attributs féminins.
D'accord.
Et donc, le cheveu, la poitrine, les fesses, les talons, les machins, enfin, tout ce qui fait qu'on correspond à une image de vraie femme slash Barbie, par exemple.
Comment, par exemple, je pense aux parents qui nous écoutent, ça m'arrive, comment on fait quand sa fille, son ado, décide de devenir hyper féminine. Alors effectivement, à nous écouter cet après-midi, ça peut être une bonne chose, mais si ça va jusqu'à la chirurgie esthétique, ça peut être plus problématique quand même. Est-ce qu'on a le droit de s'y opposer, d'émettre des critiques, ou est-ce qu'on doit...
Ah bon, on a toujours le droit de critiquer, bien sûr. Je pense que ce qui est important, c'est concernant la chirurgie esthétique, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi. Est-ce que c'est juste pour imiter quelqu'un? En quel cas, il vaudrait mieux attendre un petit peu et être sûr que c'est pas juste de l'imitation et que c'est un réel désir qui répond à un réel complexe. Et puis, en tant que parent d'adolescente ou de jeune mineur, en tout cas, c'est d'essayer de trouver une personne, un médecin qui sera, qui aura une morale et qui sera accompagné cette jeune fille qui veut. Parce qu'il y a beaucoup de dérives dans la chirurgie esthétique. Il y a une banalisation de la chirurgie esthétique, inaccessibilité de la chirurgie esthétique et du tourisme médical, qui font que maintenant c'est très simple de se refaire les seins ou les cheveux ou les fesses, etc. Donc c'est le problème, il est beaucoup là en fait.
Quentin, est-ce que dans la rue, vous avez croisé des femmes qui jouent la carte de cette hyper-féminité ?
Des couleurs, des looks travaillés, des jupes, du maquillage un peu plus appuyé. Si on prend le temps, dans les rues de Paris, on voit de plus en plus de femmes s'emparer de ces codes-là. Je vous présente Paola, 19 ans, maquillage qui entoure ses yeux de rose et d'orange, des faux cils, sourcils blancs dessinés au crayon, maquillage qui descend jusqu'au nez, où elle porte une boucle, un anneau. Elle porte également un écarteur dans chaque lobe.
Hyper-féminité, pour moi ça se relie pas mal à la musique pop.
On sait à qui ?
À Charlie XCX.
Charlie XCX, hyper féminine, hyper pop, c'est l'artiste hyper. Nous parlons de ces codes, donc de l'hyper féminité, les gros bijoux, les couleurs, les talons aussi.
Non, je pense que c'est des codes qui sont cool. Enfin, c'est cool qu'ils soient repris par des gens qui ont des revendications féministes. Parce qu'il y avait un peu l'image de la féministe poilue, moche et pas maquillée, tu vois. Et en vrai, on peut être féministe et hyper sexy et hyper, hyper bonasse. Ça marche complètement.
Hyper bonasse. Je lui demande comment ses tenues et son maquillage sont perçus dans la rue.
Les remarques les plus virulentes et les plus physiques que j'ai eues, c'était aux fêtes de Bayonne. Où il y avait des gens qui ont mis leurs doigts dans mon nez, dans mes oreilles, qui m'ont tiré les cheveux aussi pour savoir si c'était une perruque. Ouais, j'ai pas d'anecdote hyper fun.
J'avoue. Il y a bien quelqu'un qui est venu te voir en disant que le look était cool ou que...
Ah oui, ça oui, souvent. Souvent des vieilles personnes, des vieilles madames qui sont en mode waouh. Non mais c'est super de faire ça à votre âge parce qu'aujourd'hui, enfin moi je pourrais plus quoi, mais vous c'est bien, faut continuer et tout.
Alors les mamies soutiennent-elles l'hyper-féminité qu'elles n'ont peut-être pas eu le loisir d'exprimer? En tout cas, au fait de Bayonne, certains ont pensé que le look de Paola rendait son corps accessible à tous. J'arrête cette femme et je lui demande de nous parler de sa tenue du jour.
Alors j'ai des barésilles et surtout des porte-jartelles, donc du coup qu'on peut voir avec ma jupe. Et, je trouve ça aussi élégant avec une robe de soirée par exemple. Quand c'est déchiré, ça peut donner un côté un peu rebelle. Donc c'est quelque chose avec lequel on peut vraiment s'amuser. Honnêtement, je me prends des remarques et même des agressions verbales que je porte ça ou pas. Donc j'ai décidé qu'aujourd'hui, je m'en fiche.
Je lui demande comment c'est perçu dans son entourage. Alors, elle me dit que ses amis, beaucoup d'artistes, la soutiennent, l'encouragent, mais en revanche...
Par contre, ma famille ne serait pas tout ça. Donc, faudrait pas que ma maman me voie cette tenue.
C'est vrai ?
Oui.
Ah, donc l'hyperféminité, c'est pas en famille.
Il y a certaines expressions de cette féminité qui sont définitivement pas acceptés en famille.
Là, demain, vous venez comme ça au repas de famille, ça se passe pas bien ?
Non, pas trop, non.
J'arrête Jean maintenant, 76 ans. Il marche avec son journal sous le bras. Je lui parle de mes rencontres, où l'on parle de maquillage appuyé, de barésie. Connaît-il ?
Ah, j'ai hyper-féminité.
Je vous fais lire la définition ou pas, Jean ?
Ah oui ? C'est charmant, absolument charmant. Moi, j'ai pas de problème avec tout ça, tant qu'elles ont l'âge et la beauté qui leur permet de montrer un petit peu tout ça, ça reste dans les limites acceptables. Il faut pas trop qu'elles provoquent, ou en tout cas, ou qu'elles provoquent, mais si elles sont jeunes et belles. À mon âge, vous savez, si on voit, on est content, hein. On n'a pas droit à autre chose. Hein. Donc, c'est très bien si le spectacle de la rue est charmant.
Voilà. Le spectacle de la rue qui, pour Jean, n'est réservé qu'aux belles femmes. Oui. Les autres n'ont qu'à se cacher sous des manteaux. J'arrête maintenant Anaïs, ma dernière rencontre du jour.
Hyper féminité. Ok.
Vous souriez ?
Ouais, ça me fait rire, je sais pas, je m'attendais pas à ça. Peu importe s'il y a des hommes ou pas, je m'habille comme je veux et j'en ai rien à foutre. Et mon corps ne doit pas être sexualisé plus parce qu'il a moins de tissu sur lui.
Elle me confie qu'elle emprunte ses codes de temps en temps, mais rajoute quand même...
Mais après, c'est sûr que, par contre, quand tu sors comme ça... tu te fais vite regarder par les hommes cis-hétéros. Une anecdote comme ça, alors c'était le premier jour où je suis arrivée à Paris, quand j'ai déménagé à Paris il y a 2 ans. Et le jour où je suis arrivée, j'avais un petit top et tout, j'avais ma valise et je traînais jusqu'à mon nouvel appartement. Et en l'espace de 5 minutes de marche dans la rue, je me suis pris genre 5-6 réflexions d'hommes hyper intrusifs et où même le mec il arrive en face de toi et il te regarde dans les seins et tu lui claques des doigts en mode lève les yeux frérot et il réagit pas quoi, il réagit même pas, il continue de regarder tes seins et après il sourit, il part, genre c'est une folie, mais ça arrive tout le temps.
Dans son look du jour, je note quand même l'importance du maquillage.
Ouais, le maquillage, c'est hyper important pour moi le maquillage. Il y a du rose, il y a du rouge, aujourd'hui c'est un peu dentelle, fumée.
Qu'est-ce qu'on exprime à travers un maquillage?
Souvent ça peut être juste l'émotion de la journée, un peu comment je me sens, ou comment j'ai envie de me présenter au monde. Parfois juste pour choquer les gens, ça me fait rire, je me dis... C'est drôle de juste voir des gens dans le métro qui te regardent et qui sont en mode « qu'est-ce qui se passe en face de moi ?»
Provoquer, bousculer, heurter, faire se questionner entre liberté et réaction problématique, voilà où nous mènent vos réflexions dans la rue quand on aborde le thème de l'hyperféminité.
Merci Quentin et merci à Paula, je crois que c'était Paula, la première intervenante, d'avoir suggéré à Marvel une nouvelle super-héroïne hyper bonasse.
Hyper bonasse.
Ça pourrait faire un bon film. Agathe Ridinger, vous êtes d'accord, il faut choquer dans un premier temps en tout cas pour faire évoluer les mentalités?
Bah oui, je pense.
C'est une bonne
chose.
Il
faut marquer, en tout cas, faut marquer le coup, faut taper du poing sur la table, enfin c'est important.
On voit que les hommes dans la rue, j'en ai arrêté qu'un seul, parce que je voulais avoir plusieurs témoignages, mais Jean, 66 ans,
il était gratiné.
Un peu perdu quand même par
âgé,
tout ça. Quel regard vous portez sur ça, sur ce genre de réaction?
Sur la réaction de ce monsieur, j'ai tendance à me dire ancien monde directement, mais bien que ce qu'il pense se retrouve aussi, comme le disait la dernière jeune fille que vous aviez interviewée, il n'y a pas que les vieux messieurs blancs bien élevés qui pensent ça, évidemment, malheureusement. J'en pense que c'est absurde, c'est grotesque, c'est triste, c'est bête, c'est très limité, c'est limitant, enfin c'est...
Mais le problème, c'est que les hommes ont tendance à sexualiser toujours, en fait, la femme. D'autant plus quand elle est hyper féminine.
Systématiquement. Et quand, déjà de base, une fille qui n'est pas dans l'hyper-sexualisation ou l'hyper-féminité se fait quotidiennement agresser, peu importe ses vêtements, peu importe son apparence, c'est quand même le monnaie courante et quotidienne pour toute jeune femme et pour toute femme. Mais effectivement, quand une jeune femme assume son hyper-féminité, tout à coup, c'est comme si elle avait écrit sur son front qu'elle était, que c'était open bar, quoi. Et quand même ce serait open bar, l'important, c'est quand même que ça devienne consenti absolument par la fille. Donc, c'est toujours le mélange entre hyper-sexualisation et sexualité. La frontière est encore complètement floue. Et c'est très problématique. Mais par contre, ce qui est génial, c'est d'entendre dans tous ces témoignages, justement, la conscience aussi qu'en fait, il faut tout de suite dire stop et qu'il faut se battre contre cette idée-là, quoi. Qui est vraiment encore trop floue, quoi.
Est-ce qu'on a, Agathe, d'après vous, un problème en France particulier avec ça? Moi, j'ai vécu à Londres un an, c'était il y a longtemps, mais je me souviens qu'il y avait... pas du tout ce regard sur les gens et sur les femmes, particulièrement dans la rue ou à Londres, où les gens sont habillés vraiment comme ils veulent. Et je me souviens pas, alors je parle peut-être un peu trop vite, je ne suis pas une femme, donc peut-être effectivement c'est arrivé aussi à des femmes là-bas d'être dérangées par des hommes pour leur habillement, mais j'ai l'impression que c'était quand même très différent en France. J'ai l'impression que les femmes s'habillaient vraiment beaucoup plus comme elles voulaient qu'à Paris, à cette époque.
Alors moi, j'ai aucune expérience de vie à l'étranger, donc je pourrais pas savoir si en France c'est pire ou c'est mieux ou quoi, ou ça c'est certain. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en France, je pense qu'il y a... Il y a un héritage aussi de l'étiquette, il y a un héritage d'une certaine mode, des lumières, d'une élégance, de la française, la parisienne, la Inès
qui
de Fressange, etc., qui est censée correspondre à la beauté effortless aussi, etc. Donc,
mais à l'inverse, il y a aussi l'image de la cagole, du sud, etc.
Oui, il y a aussi cette image,
mais je pense
qui est hyper, bien sûr, qui est la bimbo française, je pense qu'en fait, en effet, selon les villes aussi, selon la taille des villes, c'est très différent puis, parce que chaque territoire a sa culture.
Et de l'époque, parce que l'Observatoire de la mission interministérielle pour la protection des femmes a donné ce chiffre quand même. En 2024, 3374 victimes de violences sexuelles dans les transports en commun ont été enregistrées, soit 6% de plus qu'en 2023, 9% de plus qu'en 2022 et 86% de plus qu'en 2016. On n'est pas dans un monde safe dans les transports pour pouvoir afficher son hyper-féminité.
Bon, on l'a jamais été, même avant que ça s'assume.
Mais c'est pire qu'il y a 10 ans.
Ah oui, mais c'est... C'est, mais j'ai rien à dire. Enfin, c'est ouais, terrible, quoi. Mais c'est pour ça que je pense aussi, peut-être aussi qu'il y a, le fait de s'exposer encore plus, de pousser encore plus, plus loin le curseur de l'hyperféminité et de vraiment de devenir presque des créatures, des guerrières. Enfin, moi, c'est vraiment une image que j'accole vraiment, l'image de la guerrière.
Oui, parce qu'elles prennent des risques aussi en sortant comme
ça. Oui, mais je pense qu'il y a un truc de provocation et qui participe aussi à mettre un peu la limite et dire, mais tu ne mourras pas, en fait. Et je deviens une créature, un objet de fantasme absolu, mais tellement fort que tu ne mourras pas.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Et c'est l'heure du Zoom Zoom Test. Aujourd'hui, vous devrez trouver des icônes de l'hyperféminité seulement à travers leurs déclarations. La règle est simple, 3 citations pour trouver un nom et obtenir un point. Je rappelle ce qui est en jeu, une chambre éloignée de celle de Cyril au Novotel de Lille ce soir. C'est parti.
Moi, je veux ça.
Ça veut dire pas de ronflement.
Non, mais j'ai eu celle à côté, moi, l'année dernière. Oui.
Alors attention, les citations, c'est parti. Nous ne comprendrons jamais la vie. Ça, c'est plutôt le boulot du bon Dieu. J'ai hâte de le ou la rencontrer. Ah. J'aime beaucoup l'Afrique du Sud, mais aussi l'Afrique du Nord. Ce sont deux pays formidables. Peut-être que Madonna était mon mari dans une vie antérieure.
Mais on a un indice ? Française, non. Américaine ?
Américaine.
Ah !
Wow. Oh là
là. Américaine, ouais. elle a eu beaucoup de relations...
Paris Hilton ?
Non, elle a eu beaucoup de relations toxiques dans sa vie.
Ah, Pamela Anderson ?
Non, elle a eu beaucoup de relations toxiques dans sa vie.
Britney Spears !
Britney Spears ! Oh là 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 là, l'indice était pourtant gros.
Je n'avais pas du tout le...
It's Britney, bitch, la princesse de la pop, tutelle girl, hyper féminine et sexualisée très tôt, mais de façon assumée, puisque toujours selon elle, personne ne me reconnaît quand je ne suis pas maquillée, ce qui la différencie à jamais de notre hyper féminine girl à nous.
Est-ce que toi aussi, t'as l'impression que par moment... Des gens te reconnaissent.
Ah. Eh oui, maquillé ou pas, on te reconnaît, hein, c'est ça le star system.
Je déteste
on
continue. Ce
vocal. Vous avez honte, hein.
On continue, attention, ça va citer. Qu'on le couvre,
ça va citer.
Qu'on le couvre d'or. Le monde romain en la personne de César en doute,
Cléopâtre,
je vais donc
Cléopâtre,
lui montrer
Ah, oh, j'ai dit.
Bien joué, allez. Cléopâtre. Cléopâtre, effectivement, c'est allé très très vite. À ma droite, Manon, bravo. Et notre invité aussi, je crois que vous avez répondu. Quasiment.
Moi, j'ai pas répondu avant.
Plus vite. Non, vous êtes nul, mais ça, c'est une nouvelle pour personne. Et les citations attribuées à Cléopâtre faisant l'objet de débats au sein de la communauté des égyptologues, j'ai préféré utiliser 3 citations de Monica Bellucci dans Astérix d'Alain Chabat. Alain, qui, je le rappelle, sera avec nous demain en direct de Cérimania à Lille. En tout cas, note-le dans ton agenda. Alain. Cléopâtre, donc, reine qui assumait sa féminité sans renoncer à son autorité. Elle est issue d'une lignée grecque, comme on l'oublie trop souvent, puisque descendante de Ptolémée. Mais un des généraux d'Alexandre le Grand, alors que notre prochaine vedette hyper féminine est vraiment égyptienne, elle. 3 citations. J'ai traversé la vie sans la regarder, je sais ce qu'est
Dalida.
Oui, j'allais dire.
Oui, bravo.
Mais on est un peu bas du front parce qu'il y a... Enfin, on nous dit...
Alors là, vraiment, je pensais que c'était dur à trouver. Le bonheur, je ne sais pas ce que c'est, le meilleur somnifère, c'est un homme, hélas, je dors seul.
Ah oui,
j'avais même un indice pour vous. Et vous n'avez pas eu besoin d'indices ?
Dalida,
bravo, Quentin. On croit, vous savez, on croit tout savoir de Dalida, et pourtant, ce qu'on sait peu, c'est que...
Il venait d'avoir 18 ans.
A été composé pour Cyril Lacarrière, qui en 86 fut son dernier Toy Boy. Oh. Main sur le buzzer, 3 citations, une femme, une réponse, ça repart. Je ne veux pas être riche, je veux être merveilleuse. Les femmes ont à leur disposition 2 armes terribles, le phare et les larmes. Heureusement pour les hommes, elles ne peuvent pas s'en servir en
Marilyn
même temps.
Marilyn Monroe.
Marilyn Monroe. Oh, mais vous connaissez bien vos icônes hyper féminines. Oui. Icône absolue de la féminité au XXe siècle. Comme Cyril, elle dormait entièrement nue avec seulement un voile de parfum. Elle, Chanel numéro 5, lui, Brise de Rognon de Denis Chenet. Mais attention, attention,
Denis
Chenet qui est son boucher,
oui,
pour ceux qui ne suivent pas, nos aventures. Très bon boucher du 10e arrondissement, peut-être le meilleur boucher du 10e arrondissement. Attention, Manon, Quentin ne baisse ni le rythme ni la garde. À quelle star hyper féminine doit-on les déclarations suivantes ? C'est génial d'être une blonde, avec de faibles attentes, il est très facile de surprendre les gens. La vie est comme le sexe, ce n'est pas toujours
Pamela
bon,
Anderson.
Mais il vaut la peine d'essayer. Mes saints ont fait une carrière extraordinaire, je me suis contenté de les suivre pendant le trajet. Pamela Anderson, effectivement, dès que le générique d'Alerte à Malibu retentit, il se passe dans le cœur des hommes qui avaient 15 ans en 90, quelque chose de magique qu'on pense à Pamela Anderson comme Cyril et moi, ou à David Charvet comme notre rédacteur en chef adjoint Pierre Courade, c'est toujours la même émotion. Pamela Anderson est l'hyperféminité incarnée. Hyper féminisée mais aussi hyper engagée, vous le savez, pour la défense animale puisqu'elle a posé pour PETA avant de créer sa propre association. Peut-être un point commun avec la femme que vous allez devoir trouver à présent au travers des déclarations suivantes. Attention, nous rentrons dans le Money Time. Tout ce que vous avez à faire dans la vie, c'est de sortir avec vos amis, faire la fête et avoir l'air 2 fois plus belle que la chienne qui se tient à côté de vous.
Charlie Hilton.
Qui a dit Paris Hilton ?
C'est Agathe.
C'est quelqu'un qui ne participe pas au quiz, je vous rappelle. C'est l'invité. Mais exceptionnellement, on va dire que ce point...
je suis pas censée participer.
Non, ce quiz, cette question valant 12 points, ainsi en ai-je décidé, c'est notre invité qui remporte le quiz aujourd'hui, elle s'impose. Magnifique. Agathe Bélanger, magnifique victoire. Magnifique victoire.
Vous gagnez la chambre de l'hôtel.
Vous gagnez la chambre de l'hôtel.
Vous ne pouvez pas me dire que je la gagne. Direct.
Ben non, j'ai gagné. Pas du tout, Manon. Enfin, respectez les règles.
C'est fou, ça.
Vous êtes sérieux? J'ai mené 4 ans.
Je crée les règles au fur et à mesure.
Je vous donne mes 12 points.
Non, non, non. Agathe, venez avec nous. Série Mania, c'est très simple.
Loin de Cyril, du coup.
Très loin de Cyril pour bien dormir. Quand la féminité devient une arme, on continue de zoomer sur la tendance de l'hyperféminité avec notre invitée Agathe Ridinger, la réalisatrice de Diamant Brut, sortie en novembre dernier, est disponible désormais en VOD. Faut le signaler. Agathe, l'hyperféminité, ça se construit forcément par rapport aux autres. C'est pour dire quelque chose.
J'ai plutôt tendance à penser qu'effectivement, si l'autre, c'est fait pour être vu aussi, pour être validé par l'autre. Donc, mais c'est un point de vue très personnel, hein, ça n'engage que moi, mais j'ai du mal à croire qu'on puisse juste être hyper féminine juste pour soi-même, finalement, parce qu'on est, on a besoin de se mesurer à la vie des autres pour savoir où on se situe sur l'échelle de la féminité, de la beauté, etc. Donc.
On l'entendait tout à l'heure dans le micro-trottoir de Quentin, il y a aussi celles qui sont hyper féminines dans certaines circonstances et qui ne vont pas s'habiller de la même manière, par exemple, en famille. L'hyper féminine rêvée, elle doit être hyper féminine tout le temps, elle doit assumer tout le temps.
Ben non, je pense qu'au contraire, c'est une manière de se mettre aussi en repos, en relâche, et de justement d'avoir, vis-à-vis de la famille, parfois c'est plus confortable de pas se taper les remarques, les coulibets, les choses comme ça, de la part de sa famille, qui de toute façon ne pourra pas comprendre. C'est ce qu'elle avait l'air de dire aussi tout à l'heure. Donc, elle n'a pas envie de se justifier, en fait. C'est fatigant de devoir toujours se justifier. Donc, elle se met en jachère, quoi.
Mais est-ce que, justement, l'hyperféminité, c'est une réaction aussi face à un certain puritanisme qui revient beaucoup en ce moment?
Moi, j'aurais plutôt tendance à penser que c'est l'inverse. Pour moi, il y a un truc de l'ordre de la résistance, en fait, dans l'hyperféminité, dans la manière de se fabriquer une armure, de se fabriquer quelque chose de guerrière, d'Amazon, etc. C'est un truc un peu que je trouve qui est très lié à la résistance, à l'anxiété, à l'époque, aussi à la fragilité intérieure, mais aussi vachement ambiante. Enfin, il y a une manière aussi d'affirmer une puissance, en fait, et d'être dans le contrôle de quelque chose et dans la fabrication de quelque chose de beau, et donc d'être dans la valorisation de quelque chose, qui est un peu une résistance à tout ça. Et je pense que la vertu, au contraire, je pense que c'est plus une conséquence de l'explosion, justement, de soi et de l'affirmation de soi qu'on retrouve et dont l'hyperféminité fait partie. Je pense que c'est plus dans l'autre sens, du coup.
On parlait de la poule et de l'œuf tout à l'heure. Est-ce qu'on n'est pas rentré dans un cycle un peu pervers, un peu inquiétant, à savoir, Manon nous parle souvent dans sa chronique du retour en force, enfin, du masculinisme chez les jeunes, surtout chez les jeunes garçons. Alors, est-ce que c'est une réaction au fait que certaines femmes jouent l'hyperféminité à fond, ou au contraire, est-ce que l'hyperféminité est une réponse à ces jeunes masculins qui se permettent de juger l'apparence des femmes?
Je pense que l'hyperféminité fait partie d'un mouvement de libération de la parole de la femme et de libération de la revendication de la valeur de la femme, de la légitimité, de la dignité, etc. Et qu'en réaction à cette place que prend la femme, qui va grignoter l'ego des masculins, ce mouvement masculin. Ouais, voilà, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Et que l'hyperféminité, ça va aussi avec MeToo. Ça fait partie vraiment de toute cette vague de ras-le-bol et d'affirmation de soi, des femmes, et de la place à laquelle on a droit. Et les masculins ne sont pas contents.
Qui sont aujourd'hui, au-delà de la télé-réalité, les icônes de l'hyperféminité, qu'on n'aurait pas encore citées d'ailleurs dans l'émission, pour vous?
Oula, je ne sais pas, on en a cité beaucoup quand même.
Il y a eu le quiz, Quentin.
Oui, c'est vrai, mais on a parlé de Charlie XCX, on a parlé de Dalida à Charlie XCX.
Effectivement, toutes les icônes pop, elles sont très, notamment américaines, elles sont toutes dans une, dans
Taylor
une
Swift,
grande hyperféminité. Oui, après moi Taylor Swift, je la rangerais plus je rangerais plus son style, je vais pas l'objectifier, plus dans quelque chose de Barbie, cowboy, etc. Mais c'est moins l'image de la. Il y a quelque chose de très innocent dans Taylor Swift qui est pour moi l'hyper féminine. Il y a quelque chose de sulfureux,
que ce soit clinquant, limite un peu dans la vulgarité.
Ouais, je pense qu'il y a vraiment un paramètre de mauvais goût qui est très important,
mauvais goût assumé
et qui est là pour défriser les bourgeois et ceux qui vont expliquer que c'est pas comme ça qu'il faut faire, et que c'est pas comme ça qu'on est belle, et que c'est pas comme ça que machin
Là, moi, je pense forcément à Paris Hilton, qui dans les années 2000 était un peu moquée pour ça. vraiment, bah, Queen, on le dit aujourd'hui, mais à l'époque, elle était moquée. Paris Hilton. C'est la revanche de Paris Hilton aujourd'hui, en 2025. Elle était en avance.
Après, Paris Hilton, est-ce qu'elle avait grand-chose à prouver aussi à l'époque du fait de son berceau familial Mais elle était avec Nicole, comment elle s'appelait? Sa copine de...
Ça, je pourrais pas dire.
Nicole Richie,
elle jouait un rôle aussi. Et c'était, je pense, peut-être que c'était aussi de l'ordre de l'ennui dans leur vie aussi bien rangée et très simple aussi. C'était une manière de s'amuser. Et après, c'est la figure américaine. C'est encore autre chose que nous, la figure française. On n'a pas de Paris Hilton équivalente.
Il y a une figure quand même très intéressante, c'est Pamela Anderson. On en parlait, icône d'Alerte à Malibu. Aujourd'hui, Pamela Anderson, elle a décidé de ne plus se maquiller sur les tapis rouges et vraiment de gommer, en fait, cette hyperféminité, tellement elle a vécu l'enfer avec ça.
Elle a vécu, en fait, elle s'inscrit exactement dans le même parcours que Marilyn Monroe au final, où elle avait conscience de il fallait qu'elle joue la potiche et que c'était ce rôle-là qu'on lui assignait et que elle l'a accepté parce que la pression est trop forte et là elle se libère de, je sais pas si vous avez vu The Last Showgirl là, qui est sorti récemment, qui est un super film qui est très intéressant pour ça et c'est beau, en fait, c'est vachement beau, même du fait de son âge aussi, et donc de tout le paramètre autour de l'ogisme qui rentre forcément dans l'hyperféminité, ça fait partie de l'équation, quoi. Donc c'est doublement beau.
Vous écoutez France Inter, il est 16h47. Il y a une personne qu'on n'a pas encore citée dans l'hyperféminité, pas trop, mais c'est le moment avec la personne à suivre, Manon.
Et oui, je vous présente Nabila Benatia Vergara. Elle a 33 ans, elle est française et ces dernières années, elle est devenue une icône de la pop culture française incarnant une hyperféminité assumée et revendiquée.
Non mais allô quoi, t'es une fille, t'as pas de shampoing, allô.
C'est grâce à cette phrase sortie des anges de la télé-réalité en 2013 que Nabila se fait connaître du grand public. Souvent réduite au rôle de starlette de télé-réalité Bimbo, elle commence à être invitée sur les plateaux télé et être moquée dans les magazines. Et pourtant, Nabila a toujours assumé ce côté hyper féminine. Dès ses débuts dans L'amour est aveugle en 2011, elle affiche son style inspiré de son idole Kim Kardashian. Lèvres pulpeuses, cheveux longs, poitrine refaite, tenue courte, maquillage voyant. Impossible de ne pas la remarquer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle cherche. Nabila veut être une star et elle ne s'en est jamais cachée. Et son ambition paye, car au fil des années, Nabila Benatia se transforme en véritable femme d'affaires. Elle a capitalisé sur son image ultra féminine pour bâtir sa marque de beauté, Nabila Beauty. Et puis son influence s'est renforcée à travers ses réseaux où elle partage son quotidien luxueux, ses looks travaillés et ses conseils à ses 9,4 millions d'abonnés sur Instagram. Nabila a réussi le pari audacieux de changer l'image aussi de son couple, marié à Thomas Vergara, qu'elle a rencontré dans Les Anges. Elle avait été condamnée à de la prison en 2014 pour l'avoir poignardée. On l'a pensé fini, mais pas du tout. Les deux sont revenus plus forts que jamais en couple modèle, aujourd'hui parents de deux enfants. À travers son parcours et à travers ses choix, Nabila incarne une forme de féminisme moderne, celui de l'appropriation de son image. Elle défend l'idée qu'on peut être sexy et ambitieux sans que ça remette en question sa légitimité. L'hyperféminité de Nabila n'est pas un frein, mais au contraire un signe d'empowerment. Elle a quand même dû se battre pour arriver là, ça n'a pas toujours été rose. Elle a plusieurs fois été victime de cyberharcèlement sur les réseaux, notamment à cause de son apparence. Mais il en faut plus pour la déstabiliser. Aujourd'hui, elle navigue entre sa vie de famille et sa carrière. Elle n'a plus besoin de prouver des choses à ceux qui l'ont tant méprisée. Après tout, on est tous un peu fous de Nabila.
Ah,
eh oui, ce tube.
Ce tube inoubliable.
De Sofiane.
Oui, évidemment.
Les Anges 4.
Il est dans ma playlist. Let's Dance Tonight. Merci Manon. Agathe Ridinger, Nabila, c'est pas une bimbo, c'est la Kim Kardashian française en fait.
C'est la Kim Kardashian française, mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'avant elle, les femmes qui ont capitalisé sur leur beauté, il y a les grandes cocottes, les grandes demi-mondaines de la fin du 19e, qui étaient déjà des bimbos, qui étaient les bimbos de l'époque et qui avaient toute conscience de l'outil de beauté que leur corps pouvait représenter et qui ont utilisé leur beauté et leur intelligence pour bâtir des empires et qui étaient décriées comme Nabila a été décriée pour leurs vêtements, pour leurs mœurs, etc. et qui ont réussi à imposer quelque chose de très beau. Donc Kim Kardashian est une cocotte. Et on parlait tout à l'heure, vous parliez de référence, on a oublié de parler de Zaya par exemple, qui se définit elle-même comme courtisane et comme et qui assume son hyperféminité. Et alors voilà, vraiment l'icône française qui assume ça dans la lignée de Brigitte Bardot, etc. Donc c'est
Brigitte Bardot aussi.
Brigitte Bardot, on en a oublié
cité,
finalement.
Bah oui.
Il y en a plein qui manquaient dans le quiz.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Pour la première fois, il a bien failli faire jouer sa clause de conscience aujourd'hui. Déjà, parler des femmes en général lui donne de l'urticaire, mais alors, l'hyperféminité...
Mathieu,
n'oublie jamais que c'est Eve qui a croqué la pomme. Si on commence à légitimer ces diablesses qui montent leurs atours sur les réseaux, comme cette Hélène Blue Sky qui m'a ajouté en ami, les portes de l'enfer vont s'ouvrir, on va tous brûler. Calme-toi, Pierre, c'est juste un phénomène sociétal que tu vas nous résumer parce que c'est ton job en une minute chrono.
Et avant tout, la voiture balaye vous salue, Mathieu. L'hyperféminité, c'est donc notre sujet du jour, je l'ai pris comme ça. Remarquablement mise en image, hein, l'hyperféminité par notre invitée, la réalisatrice de Diamant Brut, Agathe Ridinger. Dans ce film, une jeune fille fait tout pour percer dans la télé-réalité. Pour cela, elle met en avant sa féminité de manière exacerbée. Derrière cette posture peut-être un peu simpliste, il y a toute une réflexion sur la manière pour les femmes de retourner les stéréotypes féminins et de les jeter à la figure des machos, mettre en avant leurs attributs. C'est une manière pour notre invitée de dire « je vous emmerde », une manière d'assumer sa féminité, de ne pas se cacher, de s'aimer parce qu'on se trouve belle, d'avoir confiance en soi, de combler un manque affectif également, de se sortir du milieu social comme l'héroïne du film de notre invitée. En attirant les regards sur elle, elle s'offre de la crédibilité. L'hyperféminité, c'est donc une revendication féministe ou en tout cas une réaction aux injonctions patriarcales. Il y a aussi cette volonté d'exploser les codes et le bon goût, comme Manon Mariani. Choquée pour faire changer les mentalités, l'icône de l'hyperféminité, c'est évidemment Kim Kardashian, la Madone moderne, comme l'a définie notre invitée, si bien que de nombreuses jeunes filles veulent aujourd'hui lui ressembler, ne serait-ce que pour ce qu'elle représente, une certaine idée de la liberté. D'autres s'arrêtent à la silhouette et tombent dans l'engrenage de la chirurgie esthétique. C'est la face sombre de l'hyperféminité, ça. Et Afida Turner qui reprend Étienne.
Ah, voilà. Jardin de luxe. On y est quand même. Effectivement,
on n'a pas d'extrait.
Pierre, c'était passionnant et pourtant personne ne vous a écouté une seule seconde. Puisque là, il faut nous retrouver sur franceinter.fr pour voir ce qui se passe en vidéo. Ah ouais. Parce que là, on est très embêtés. À l'évidence, GC n'a pas pu venir. Il n'est jamais arrivé. En revanche, on a une femme dans le studio à sa place.
Mais c'est moi, Mathieu. C'est GC. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis réveillé comme ça, en fait. Non, mais moi, j'ai juste regardé Drag Race hier. C'est tout, en fait. N'importe quoi. Je suis sûr, c'est Pierre Courat, cette sorcière. Elle m'a marabouté. Oui, elle m'a transformé en femme pour m'invisibiliser, pour avoir plus de succès dans le milieu gay. Jalouse.
Ça a marché,
tu vas vite te rendre compte. Non, tu vas vite te rendre compte que c'était pas moi le problème. Hey, mais moi, je suis autant choqué que vous. Hein. Imaginez l'état de mes draps ce matin. Heureusement, ils en ont vu d'autres. Et mes ongles. Regardez mes ongles, que je peux même plus m'essuyer. Franchement, j'ai dû demander à Quentin de taper ma chronique. Oui, ça lui a fait tout drôle de bosser. Et... C'est ça. Mais j'ai failli m'étouffer en faisant mes lacets. N'importe quoi. De toute façon, c'est bien simple. Cyril m'a pas encore regardé dans les yeux depuis le début. Hein, goujat, obsédé. Arrête. Ah, il est en mi-molle, papy. Bah oui, en même temps, à son âge, c'est son max. Et attendez, j'ai une pépette aussi. Oui, enfin une pépette, une huître, calibre 9. Ah oui, ça, ils sont calqués sur ce que j'avais avant. Oh, ça va, il me reste encore un peu d'énergie toxique masculine, visiblement. Et attendez, j'ai un petit bouton au-dessus de la pépette. Oui, et quand je le frotte, ça me fait des guilis partout. Oui, ça, j'avoue, c'est trop marrant, j'ai fait ça toute la matinée. Eh, les filles, bravo de trouver encore le temps de faire le ménage. En tout cas, pardon, mais c'est pas pratique pour pisser, votre machin. Qu'est-ce que je savais même pas de quel trou ça allait sortir. Mais c'est un escape game, le truc. Et la pression du machin. Tu peux repousser des flics en manif, hein, je peux te dire. Mais oui, les mecs, nous, on est là. Ouais, j'ai une lance à incendie. Les meufs, un canadair entre les cuisses. C'est horrible. En plus, j'ai envie de pisser toutes les deux minutes. Franchement, j'ai dû m'accroupir dans des toilettes publiques. J'avais l'habitude. En revanche, y a un mec juste avant moi, il m'a demandé mon tarif. Oui, les mecs sont vraiment des porcs. Bon, je me suis fait 50 balles. Je suis deg, j'aurais dû dire plus. Non mais, en vrai, parlons-en, hein, d'être une femme dans l'espace public. Moi, je réalisais pas. Hein, en sortant de chez moi, je me suis fait siffler. J'étais là, mais il est malade, ce mec. Bon, c'est quelqu'un qui rappelait son chien. Après, c'est quand même bizarre, hein, d'appeler son chien. Wesh, bien, mademoiselle. Deux minutes après, je croise un autre gars qui me fait... Ah, j'y ai foutu une torgnole, cette fois. J'étais là, il était là. Mais attends, t'es quand même vachement bonne. C'est pas des façons de parler à une femme, Mathieu Noël. Après, j'ai pris le métro, il y a un mec qui a collé son braquemard contre ma cuisse. Oui, donc c'est plutôt le métro qui m'a prise. Hein. Pourtant, quand j'étais un mec, bon bah, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'un phallus m'a jamais fait peur. Mais là, je sais pas, je me sentais vulnérable, en fait. En plus, personne autour a rien dit. J'ai failli lui pisser dessus pour l'éjecteur du wagon. Mais bon, je contrôle pas encore tous mes super pouvoirs. Donc je me suis juste assise, et là, dans le carré en face, je vois une meuf, enfin, une alliée, Vlatipa qu'elle me regarde mal, qu'elle me juge. Mon maquillage est maintenu, celle-ci, elle va se calmer, Christina Cordula, là. Oh, c'est le métro, le reine du shopping, ici. Hein, bravo la sororité, en tout cas. Hein. En plus, l'autre, elle est sortie à Alésia, elle portait des ballerines, je me ferais discrète si j'étais elle. Hein. Heureusement que des vraies féministes alliées existent, comme Manon. Oui.
Bien sûr,
et attention, hein, c'est pas parce que Manon, elle prend pas soin d'elle que c'est pas une vraie femme. Non, mais attends, moi je serai toujours une alliée pour toi, ma puce. Et je suis pas d'accord quand Cyril et Mathieu disent que je suis plus belle que toi. En tout cas, ça y est, je suis une femme, il n'y a aucun doute, parce que quand j'ai envoyé ma chronique à Cyril, il m'a répondu « Mouais, moins drôle ». Allez, je vous laisse, il faut que je passe à la compta pour pas qu'il m'enlève 20% de salaire.
Oui, pensez-y. Merci beaucoup, GC, qu'on aura reconnu derrière ce magnifique déguisement. Et vous serez demain avec nous, GC, à Lille, pour le festival Sérénania.
Oui, prenez mon âme aussi.
On ne se quitte plus. On ne se quitte plus. Merci à Gatrie Dinger de nous avoir aidé à apprendre cette notion d'hyperféminité. Pas de promo. Non, mais oui, tu seras aux Zèbres de Belleville. Aux Zèbres de Belleville, on est à la bourre.
En tournée.
Mais mon vieux, on est à la bourre, il faut aller vite. Diamant Brut, on rappelle plutôt le film de notre invité qui est disponible en VOD. Merci encore, Agathe, d'avoir été avec nous cet après-midi.
Zoom Zen.